Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce tout nouveau numéro de Chut, on écoute la télé. Aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de vous parler de notre coup de cœur ciné consacré au film Muganga, celui qui soigne, qui sortira mercredi au cinéma. Cette occasion, Marie-Hélène Roux, la réalisatrice, sera avec nous, accompagnée de Manon Brèche et de Déborah Lukwemena, ces deux actrices. Et puis, ça vient tout juste de sortir en DVD VOD, La sensation du Festival de Cannes, Partir un jour, le film d'Amélie Bonin qui va nous rejoindre dans une poignée de secondes, accompagnée de ses compositrices, R2B et Kerenan. On aura le plaisir de recevoir également Camélia Jordana. On va passer en revue évidemment ses projets, que ça soit en matière de comédienne ou encore de chanteuse. Xavier Deluc également sera notre invité. On va parler de Demain nous appartient évidemment, mais aussi peut-être du retour de Section de recherche. On va lui poser la question. Et puis Jean-Michel Tinivelli est la star de la semaine ce soir à l'affiche du grand retour d'Alice Nevers. Et puis vendredi à l'affiche bien sûr des épisodes 3 et 4 de la saison 3 de Simon Coleman, c'est sa semaine. Jean-Michel sera avec nous dans une poignée de minutes également. Et on fera un retour dans une édition spéciale exclusive en podcast sur l'édition 2025 du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Alors, vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors, c'est parti.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, on va parler de la sortie DVD et VOD du film Partir un jour, la sensation du Festival de Cannes 2025, le film d'Amélie Bonin qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et qui est accompagnée de deux de ses compositrices justement et qui ont beaucoup arrangé en tout cas les titres qu'il y a dans le film parce que c'est un film très musical et c'est l'occasion aussi de parler de la musique effectivement avec Kerenan qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là et PR2B qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là toutes les trois. Un film très musical qui met en joie à la fois aussi et qui est l'adaptation d'un court-métrage. Alors ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce switch par rapport au court-métrage. Bastien Bouillon, on l'avait découvert dans un magnifique téléfilm qui s'appelait Simple il y a quelques années. Et c'est vrai que là, on le découvre aux côtés de Juliette Armanette. En tout cas, dans le court-métrage, c'était l'inverse. Pourquoi ce switch ?
En fait, j'ai beaucoup voyagé avec le court-métrage. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi c'était un héros masculin. Et j'avais pas trop réfléchi à cette question. Et je me suis dit que c'est vrai que c'était un peu bizarre d'avoir fait ça uniquement par habitude. Par l'habitude de raconter des histoires dont les héros seraient forcément des hommes. Et donc, une fois que cette personne m'a aidé à prendre conscience de ça, je me suis dit qu'on allait changer la donne pour le long-métrage.
Qu'est-ce que vous avez bien fait ? Juliette Armanet est complètement solaire et c'est vrai que c'est chouette de la découvrir dans un autre registre que la musique, quoique, évidemment. Mais c'est vrai qu'on la retrouve dans ce rôle de Cécile qui va se voir bouleverser un peu sa vie et tout ça au gré de la musique aussi. C'est bien dit ou pas ?
Ah oui, c'est très bien dit.
J'essaie de pas en dire trop pour ceux qui auraient pas vu le film.
C'est bien dit, c'est très bien dit.
Comment est née la genèse du film déjà ? À la base et du court-métrage, pourquoi pas aussi ?
Je crois que c'était l'envie d'écrire. En fait, l'écriture, c'est de là où je parle. Je sais pas si tout le monde ressent ça, mais je trouve que c'est assez difficile. C'est des moments assez solitaires, assez longs, où moi, en tout cas, je doute beaucoup. Et donc, il y avait déjà cette envie d'écrire quelque chose où on allait pouvoir prendre du plaisir avec Dimitri Lucas, le co-auteur du film. Et parce que c'est quelque chose qu'il faut tenir sur la distance, sur la durée. Et donc on s'est dit qu'est-ce qui nous fait vibrer le plus, et donc l'histoire arrivait, et en même temps il y avait ce plaisir de la musique dans la vie, des chansons même, des paroles, d'écouter de la musique, de parler de comment les chansons font partie de nos vies, et de se dire pourquoi la musique de film ça pourrait pas aussi être ça, c'est-à-dire des chansons comme dans la vie, des chansons qui arrivent à des moments parce qu'on y pense, parce qu'on croise quelqu'un, parce qu'on revit une histoire d'amour, parce qu'il y a des chansons comme ça qui nous viennent à l'esprit, et donc ça a démarré comme ça.
Alors, c'est vrai qu'après, il y a eu les arrangements qui ont été faits par plusieurs compositeurs, compositrices, et Kerenan et Père de Bé en font partie. Comment on s'inspire, justement, pour arranger les morceaux, pour travailler dessus? On travaille en étroite collaboration, j'imagine, avec Amélie, Kerenan?
En fait, oui, c'est un exercice assez différent que par exemple, quand on fait une musique d'un film, une musique originale, et qu'il y a la composition, et qu'après on cherche les arrangements, on est déjà dans la lumière, l'environnement sonore de l'image. Alors que là, il y avait un petit mystère, il fallait aussi, en fait, ce qui était très très beau dans cet exercice, c'est qu'Amélie, elle a tenu à que tous les acteurs chantent pendant le tournage. Il n'y avait pas du tout d'enregistrement de voix en studio et après du playback pendant le tournage, ce qui peut arriver pour des raisons techniques, mais là c'était essentiel. Et donc il fallait faire le travail en deux temps. Il fallait préparer des pistes pour le tournage du film. C'était comme une espèce de bande sonore de travail où Amélie pouvait vraiment se concentrer sur l'interprétation en tant qu'acteur, en tant qu'interprète, puis de la scène et toute la chorégraphie de la scène et l'environnement de la scène et la photo et la lumière. Donc il fallait vraiment préparer un outil de travail qui permettrait de ne pas du tout se soucier de l'emplacement de l'acteur, de la tonalité, du rythme. Donc ça, c'était très très intéressant de préparer ça. Et puis ensuite, après, une fois qu'il y avait la voix de l'acteur qui était dans son personnage et qui interprétait la chanson comme s'il interprétait son texte écrit dans le scénario, à ce moment-là, il fallait arranger, orchestrer avec la lumière, la photographie, la vision d'Amélie, l'ambiance, l'émotion qu'on voulait avoir, parce que c'est très subjectif aussi de rajouter des éléments, des instruments et des textures sur une scène. Je peux avoir une lecture, Amélie elle a la sienne. En fait, pour moi, ce qui était important, c'était d'être le plus proche de ce que Amélie avait en tête, tout en proposant des choses. Et c'était un exercice assez intéressant, très différent de ce que j'ai fait avant, parce que c'est vrai que le travail avec un réalisateur, en général, c'est on trouve un thème, on le développe, on l'incline, on le décline, on essaye d'inventer un espace ou un environnement sonore pour la vision de quelqu'un. Et là, il fallait presque être invité dans l'espace sonore de quelqu'un, quelque chose qui était assez modelé déjà, et arriver tout en proposant des choses amusantes et agréables qui nous ressemblent. Chaque orchestrateur avait aussi son identité dedans, mais trouver justement là où on se rencontrait avec la vision d'Amélie, avec la voix et l'interprétation de l'acteur, et les éléments qu'on a choisi d'utiliser pour orchestrer la chanson.
Père de B, est-ce que c'est plus facile de créer ou est-ce que c'est plus facile d'arranger les musiques déjà existantes? C'est la question qu'on peut se poser, parce que moi j'ai l'impression que des fois ça peut être plus difficile de travailler sur des musiques déjà existantes que de créer purement une bande-son pour un film qui n'existe pas, à la base, et de partir d'une page blanche, que d'aller réorchestrer un titre qui existe déjà et finalement qu'il ne faut pas trahir aussi de par son histoire, par exemple.
Bah non, mais c'est vrai, enfin vous avez dit déjà beaucoup de choses. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus facile ou le plus difficile. Ce que je trouvais très intéressant là sur ce film, c'est que déjà Amélie, c'est quelqu'un qui aime profondément la chanson française et la chanson, et aussi du coup, il y avait quelque chose qui était très important, c'est je pense qu'il nous a tous et toutes réunis, c'était qu'est-ce qu'une chanson nous fait à nous. Et là, moi, je sortais même du rôle de compositrice, c'est-à-dire à quel moment, en prenant mon vélo ou je sais pas quoi, j'ai tout d'un coup écouté une chanson et je me suis, je sais pas, écroulée en larmes, ou alors j'ai éclaté de rire parce que ça m'a rappelé un sentiment.
Une émotion.
Oui, ou un souvenir. Enfin, il y avait quelque chose comme ça, comme quand, comme le rapport à la cuisine, parce qu'il y a ce lien-là. Voilà. Donc, il fallait aussi retrouver ce lien-là, un peu primal, de une chanson. Enfin, moi, par exemple, avant même de penser aux arrangements, je pensais à qu'est-ce qu'une chanson fait aux gens. Et ensuite, il y avait quelque chose qui était intéressant et qui, je pense, était tout le travail. C'est-à-dire que, en fait, les morceaux, en plus, pour la plupart, c'est des tubes dont on connaît évidemment l'interprétation, mais dont on connaît aussi beaucoup les arrangements, parce qu'il y a des arrangements très iconiques. Et en même temps, vu que les interprètes interprétaient les chansons sur le plateau, et pour la plupart c'était pas des chanteurs ou chanteuses professionnelles, il y a une fragilité qui en fait se rapproche presque de comme quand des gens chantent dans un karaoké et ont cette fragilité là. Et donc si par exemple on devenait un peu, on retrouvait cette espèce de chose un peu cavalière quand les interprètes sont des chanteurs professionnels, on enlevait toutes l'émotion. Donc en fait moi je trouvais qu'on était sur un fil où il fallait à la fois apporter une nouvelle interprétation et en même temps il fallait tenir toute cette promesse qui était celle d'Amélie, c'est-à-dire d'être sur le fil de gens qui chantent des chansons qu'ils ont aimées. Et moi, enfin, et tous les, je pense, compositeurs, compositrices, il fallait être fidèle à ça. Et donc dès moi j'avais envie d'être faire un peu ma rigolo, quoi, ou d'en faire un peu trop, et ben les images me le renvoyaient un peu à la figure, quoi. Donc évidemment c'est très inhibant, mais finalement en fait c'est un énorme exercice d'ego et de politesse vis-à-vis de la chanson française, quoi. Moi ça a été j'ai trouvé ça très beau à faire, et donc ça a été finalement très agréable après tout les prémices terrifiantes de la chose, quoi.
Ouais, et puis il faut ça se remettre en cause effectivement perpétuellement dans ce genre de situation, du coup effectivement. On va écouter la bande annonce Partir un jour, ça y est, DVD, VOD, deuxième vie. Si vous l'avez pas vu au cinéma fin mai, eh bien, c'est l'occasion de vous le rattraper maintenant. Et on revient juste après avec vous trois, tout de suite.
Salut maman.
Oh ma fille.
Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est toi qui l'as appelée?
La question c'est plutôt qu'est-ce que toi tu fais là?
Bah alors Béguin, tu t'es perdu?
C'est sûr qu'en bougeant jamais du bled où t'es né, toi tu risques pas de te perdre.
Ah.
Je suis là parce que mon père avait un infarctus.
Ah merde.
Il faut pas que je m'énerve. Et ça m'énerve.
C'est toi la dame qui a gagné Top Chef?
Oui, j'ai mon resto à Paris, tu sais. Oh putain, c'est une chebesse.
Une chebesse! Allez, ça part pour la vite!
Mais c'est pas cool! Je vais devoir rester plus longtemps finalement. C'est compliqué avec mon père.
Faut savoir ce qui te fait rire.
Il y a bien encore qu'ici qu'on fait de la Macédoine.
C'est qui ce mec?
Raphaël, mon vieux pote de collège. Sofiane, mon mec.
Cécile m'a beaucoup parlé de toi.
Moi, elle m'a pas parlé de toi du tout.
Voilà, Partir un jour, effectivement, le film qu'il ne faut pas rater. Si vous l'avez pas vu au cinéma, c'est l'occasion de vous rattraper. Ça a été un succès phénoménal critique au Festival de Cannes. Tout le monde en a parlé. Ça a été un film qui a fait sensation. Comment on vit ça, Amélie?
C'est un peu surprenant. Après, en vrai, on le vit bien aussi parce que c'est tellement de travail d'arriver à emmener un film à son terme qu'à un moment, quand on a la chance de pouvoir le sortir un peu en grande pompe, comme ça nous a été proposé, c'est quand même vraiment une chance.
Donc, ça a changé la vie du film, hein, mine de rien, quand même, Cannes.
On saura jamais ce que le film aurait été, mais oui, ça a changé parce que ça donne une dimension internationale, parce que nous aussi, en tant qu'auteurs, cinéastes, ça nous a fait rentrer directement dans la cour des grands, et donc démarrer un dialogue avec des gens qui font ce métier, que j'admire, enfin ça c'est quelque chose que j'aurais jamais pu, auquel j'aurais jamais pu avoir accès. Donc ça change tout, et puis ça a été un film super collectif, où on a quand même tâtonné, enfin on essayait de proposer une forme, on savait pas, donc je trouve que c'est aussi une récompense assez incroyable pour toutes celles et ceux qui ont participé. Enfin, je suis pas sûre que on était content de ce qu'on faisait, mais enfin, je pense pas qu'on s'était dit que ça arriverait à cet endroit-là à la fin. Donc, c'était quand même aussi une belle surprise.
En tout cas, la tessiture a été parfaitement trouvée. On va dire que l'harmonie film et musique a été parfaitement maîtrisée aussi dans ce film. Est-ce que Juliette a été facile à convaincre de se lancer dans la comédie comme ça, avec ce premier grand rôle au cinéma?
Je pense que si on n'avait pas fait le court-métrage, je sais pas ce qu'elle aurait dit. En l'occurrence là, elle a pas été difficile à convaincre, au sens où on avait déjà travaillé ensemble. Là, c'était l'occasion pour elle, je pense, de rentrer dans le cinéma avec une relation de confiance, avec une cinéaste dont elle savait que j'allais pas trahir ni son image, ni ce que j'allais chercher chez elle. Et donc j'ai l'impression que c'est aussi une jolie façon de quand même rentrer comme ça dans un rôle aussi important. C'est quand même chouette.
La musique et la cuisine, c'est vrai que ce sont les thèmes centraux hein, de cette histoire. Avec Cécile qui s'apprête à ouvrir son propre restaurant, évidemment tout va basculer quand son père va faire un infarctus et elle va devoir rentrer dans le village de son enfance. Et c'est en revoyant certaines personnes qu'elle va se replonger dans ses souvenirs et des beaux souvenirs qu'elle va vivre tout en musique. Juste avant de se quitter et de continuer à parler de partir un jour, on va arriver aussi sur vos projets à toutes les trois. Je sais qu'Erina, il y a un album qui vient tout juste de sortir hein, le 12 septembre dernier, Paris Amour. Amélie, est-ce qu'on est déjà sur la suite? Est-ce qu'on est déjà sur un nouveau projet de film? Parce que souvent, quand le premier est offert au public, on pense déjà, quand on est réalisateur, souvent à la suite.
En l'occurrence, moi, ça m'a plutôt anesthésié un petit peu. Donc,
ça peut arriver.
Donc là, ça commence à se réouvrir, mais non, j'ai pas un projet concret dont je peux parler là tout de suite.
Bon, ça prendra un petit peu de temps avant le deuxième film du coup, là.
Je me dis qu'il vaut mieux prendre son temps pour trouver vraiment ce qu'on a envie de raconter. Un premier film, on passe 30 ans à l'écrire. Donc un deuxième, c'est normal de prendre un peu de temps.
Prenez le temps en tout cas pour nous faire quelque chose d'aussi beau que celui-là. P2B, 5 décembre, album.
Tout à fait, le deuxième.
Avec DVD Partir un jour, voilà. L'album de P2B.
C'est ça.
Et Kerenan, album qui est sorti le 12 septembre. Donc c'est l'occasion en plus d'étaler ses achats. Paris Amour. On est sur quelle thématique, quelle musicalité, avec qui vous êtes entouré? Racontez-nous un petit peu.
Alors, c'est un album comme mes albums solo. C'est mon 10e album solo. Donc, en fait, j'ai la chance d'avoir des grandes collaborations. Mais mes albums solo, c'est toujours un chapitre très personnel. C'est toujours le moment où je me retrouve. C'est une introspection très, très forte pour moi. Donc, une fois de plus, c'est un album qui joint la mélancolie avec tout mon côté solaire aussi. Parce que j'ai les deux comme toute personne qui a choisi d'écrire. C'est un peu mon identité actuelle, cet album, comme chaque fois. C'est-à-dire sonore aussi. Donc j'ai cherché ce que j'avais pas encore fait, ce que j'avais envie de faire, toujours très proche de l'organique, des matériaux que j'aime enregistrer, de cette interaction en studio avec des grands musiciens. Donc sur cet album, je retrouve Vincent Tagé, Sylvain Daniel, Johan Dalgarde, Raphaël Chassin, Pierre-El Grichy, François Podio. Et puis bien évidemment mes deux complices au son avec moi, Thibaut Javois, et au mix, Julien Delfaux. Vraiment des artistes... avec qui je retourne régulièrement faire des belles choses en studio. Après, au niveau de l'écriture et de la composition, comme c'est un album solo, donc c'est mes chansons, c'est autant que raconteuse. voilà, mais ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne sont pas là entre les lignes, parce que forcément, je raconte mes émotions, je donne une forme physique. C'est ce qu'on fait un peu quand on écrit des chansons. On disait tout à l'heure, par rapport au film, que on aime les chansons, qu'elles soient populaires ou qu'elles soient intimistes. Et ce qu'elle évoque en nous, et je pense que si vous parlez après ça avec P2B d'écriture de chansons, il sera d'accord que pour nous, c'est toujours très lié à ce qu'on vit ou à ce qu'on vient de digérer ou à ce qu'on vient de déjà analyser. Puis il y a un moment où on est prêt à parler de certains sujets. Quand on a fait le tour de sujet, ça fait un album. Et donc voilà, ça c'est Paris Amour, c'est le soleil de maintenant pour moi.
Et bien si on écoutait ce que ça donnait avant de se quitter, Kerenan,
avec
on
plaisir.
Écoute lequel?
Avec plaisir, on pourrait écouter La Sublime Solitude.
On va l'écouter dans un instant. P2B, album 5 décembre. On le mettra en coup de cœur album, en tout cas, c'est sûr. Le 5 décembre, on sera à vos côtés.
Avec plaisir. J'en attends pas moins de vous.
Bon, ça sera l'occasion. La Sublime Solitude, on l'écoute maintenant. Partir un jour, c'est déjà aussi en DVD et VOD. Et puis Paris Amour est déjà sorti aussi dans les bacs. Donc voilà, allez, c'est le trio de Noël qu'on a avec nous. Merci à vous les filles, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et on vous dit à bientôt. Plein de belles choses pour la suite.
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Je sais que mes mains qui ne cherchent d'habitude que l'ivoire et l'ébène d'un piano de salon, que la peau de mes doigts racornis durcis par des cordes usagées de bronze et de nylon, font de moi une pierre, une folle cavalière qui n'est que passagère. Je sais que mes yeux ne cachent plus la blessure des longtemps enterrés au fond de mes bagages, et que sur le terrain nul ne paraît très sûr, ni la vue imprenable, ni le parfum sauvage de la haute altitude et son allié absurde, la sublime solitude. Je sais que ton cœur, tant brisé par une autre, est venu rechercher un peu de réconfort. N'en déplaise la rumeur sur le pas de ma porte, sans même l'ombre d'un doute, tu as viré de bord. Tu as poussé offshore, je m'en souviens encore, jusqu'au fond de l'impasse, tous ces hommes pleins d'audace qui me parlent à voix basse, mais qui souvent, hélas, me laisse de glace. Parfois je suis bien peu de choses, qui me reste le reste d'une foutue promesse. Que l'amour sans lendemain tu en as eu ta dose, que le bonheur, la joie tu les fuis de justesse. Pour ce vieil interlude, cette affreuse habitude, cette divine plénitude, la sublime solitude.
Bougez pas, dans un instant, Jean-Michel Tinivelli, Xavier Deluc, Camélia Jordana sont nos invités. En fin d'émission, notre spécial Muganga, tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook, chut, on écoute la télé.
Comme tous les jours, j'ouvre les yeux, sauf que ce matin, je vais mieux. Bien sûr que c'est encore douloureux, mais je sens le début d'un feu. D'abord un premier pas, d'abord on oublie le pire, d'abord on n'y croit pas, puis on se remet à sourire. Un jour on fait un choix, c'est le choix de s'en sortir.
Le monde n'attend que, le monde n'attend que,
le monde n'attend que nous.
Comme tous les jours, j'ouvre les yeux cette fois, je ne les refermerai pas. Des raisons de pleurer, il y en a plein, mais je les regarde moins. D'abord un premier pas, c'est toujours le plus dur, pas très beau, pas très droit, qui fait tomber les murs. Si la lumière m'atteint, c'est qu'elle a vu mes fêlures.
Le monde n'attend que, le monde n'attend que,
le monde n'attend que nous.
Que vivre, c'est fou.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé, évidemment, ce soir, il va au grand retour de Alice Nevers, qui revient, alors pas toute seule, Marine Delterme, puisqu'elle revient, alors Jean-Michel Tinivelli, c'est sa semaine, il est avec nous, bonjour Jean-Mi, ça va ?
Salut Alain, ouais, ça va très bien, merci beaucoup, bonjour à tous.
Bon, c'est une semaine plus que chargée, on va dire, puisque ce soir, t'es dans Alice Nevers, évidemment, sur TF1, pour ce retour tant attendu. Je crois que les fans n'ont jamais arrêté de te demander quand c'est que ça allait revenir. Et c'est ce qui t'a d'ailleurs décidé à faire ce grand retour pour ce téléfilm événement intitulé Le Piège, hein, ce soir.
Ouais, super content. Je pense qu'ils vont être contents, j'espère, en tout cas, et puis on l'a fait pour eux.
Alors oui, dans ce double épisode, on va découvrir que Fred et Alice sont plus ensemble depuis un an. Mais c'est quoi cette histoire?
Ouais, enfin, ça nous sert... Au niveau de la dramaturgie, enfin, moi, j'avais très envie. En fait, c'est moi qui ai demandé. J'avais pas envie de refaire un épisode à Paris. J'avais pas envie de refaire un épisode dans le commissariat. J'avais pas envie de les retrouver ensemble dans une cuisine avec des enfants. On s'est dit, si on y va, on y va, on casse tout. Il fallait qu'il y ait quelque chose de, donc, on rebondit sur l'enquête ou on se sépare momentanément. Je sais pas, c'est une séparation. C'est une comédie policière, hein. Attention, hein, on n'est pas une espèce de drame familial où le couple se déchire. Attention, hein. Ça nous a servi à rebondir dans l'enquête. En fait, il fait une micro-séparation par rapport à l'enquête qu'il menait il y a un an et à ce mec qui leur a échappé, ce serial killer, et en fait, en gros, dragueur ou ce que vous voulez, séducteur. Et en fait, on se remet ensemble pour cette enquête, pour le recoincer, parce qu'Alice Nevers a retrouvé sa trace. Voilà. Et j'arrive à la rescousse pour lui filer un coup de main.
Et oui, parce qu'elle va rien trouver de mieux que de se mettre sur l'appli de rencontre pour essayer de le coincer, quoi. Tout simplement.
Exactement. Après, à partir de là, je ne spoile plus parce que sinon je leur raconte le film.
Exactement.
C'est pas très drôle. En tout cas, Marquant débarque. C'est plus des retrouvailles qu'une séparation. C'est retrouvailles du public et retrouvailles du couple et de notre partenaire.
Mais voilà, c'est
dans les retrouvailles.
C'est génial de vous retrouver ce soir pour cet épisode événement. Tous les fans le réclament depuis des années et c'est vrai que ça va être un vrai bonheur. Est-ce que c'est le début d'un retour, on va dire, peut-être régulier, où il pourrait y avoir un épisode comme ça tous les ans ou tous les deux ans?
Non, franchement, j'en sais rien. Là, je suis pas là-dessus, moi. On est sur le moment présent, on est sur la diffusion, on est sur le champagne parce que c'est retrouvailles. On espère que ça va fonctionner, que les gens vont aimer, qu'on va surtout faire un succès d'audience, comme on l'avait fait quand on s'était retiré il y a 3 ans, et j'espère tout ça les régaler et une fois de plus leur faire ce cadeau pour les remercier pour leur fidélité, quoi.
Alors Jean-Michel, les retrouvailles avec Marine, est-ce que c'est comme si vous étiez jamais quittés tous les deux?
Bon, on est toujours en contact, donc en fait, en gros, voilà, tu sais, quand t'as fait un personnage comme ça aussi longtemps, même si là, on s'est beaucoup amusé parce qu'on voulait faire ça aussi, ça faisait des années qu'on en rêvait, c'est avoir une enquête où on est en immersion, en infiltration, donc on s'est déguisé, on a fait péter le costume, comme on dit, elle et moi, et puis, oui, tu retrouves des chaussons, tu retrouves des automatismes, ça ne se perd pas, ça. Et puis, vraiment, je le dis, j'insiste là-dessus, parce que ça se verra, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peut-être qu'il y a toujours des gens qui sont des puristes de la série, effectivement, qui ne veulent pas te voir vivre ou te voir évoluer, qui veulent retrouver la trame qu'ils ont quittée. C'est pour ça tout le monde a eu très très peur comment ils se sont séparés, enfin pas du tout. Ouais, très heureux de se retrouver, je pense que ça se voit, quoi. Voilà, donc oui, et comme si on s'était quitté la veille, bien évidemment.
Ouais, vous avez vite retrouvé vos automatismes tous les deux.
Complètement. Bah, c'est rigolo parce que oui et non, c'est-à-dire que quand tu t'amuses, bah, en gros, justement, c'est pas une espèce de truc qui revient barbant. Là, on est le fait de nous géolocaliser dans le sud de la France, sur la French Riviera, dans des amis différents. Donc, on a beaucoup, rien que de se voir le matin, on riait, quoi, parce qu'on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce look? Donc voilà, en plus avec un... avec un espèce de partenaire. Il est plus jaloux que jamais, ce Marquant, dans cet épisode. Et puis avec Philippe Lefebvre aussi, qui est un super bon camarade que je connaissais pas, que j'avais pas rencontré.
Il est génial, Philippe. En tant que réalisateur et comédien, génial. Il a toutes les casquettes, il est incroyable.
Il est producteur, il est super. Et puis les deux autres acolytes aussi qu'on m'a collé, les pseudos agents secrets, sont très rigolos aussi. Donc voilà, oui, des automatismes joyeux, quoi. Mais oui, heureux de se retrouver une fois de plus. Et comme si rien n'avait bougé, changé. Voilà.
Bon, bah c'est ça qu'on aime. Et puis on a déjà hâte. Il ne reste plus que quelques heures. On trépigne tous, hein, je peux te dire, pour découvrir en tout cas ces deux épisodes événements ce soir, donc à 21h10 sur TF1. On écoute un extrait, mon cher Jean-Michel. Et puis on revient juste après. On va parler de Tonton, évidemment. Moi, je l'adore, Tonton. À tout de suite.
Ok. Merci beaucoup. À tout de suite. Et on croise les doigts pour ce soir. Bye bye. Merci.
Vous n'avez pas d'expérience comme agent infiltré? Vous n'avez pas suivi de formation?
J'apprends vite. Je suis la seule à avoir fait le lien entre les 3 victimes. 3 femmes célibataires inscrites sur le site de rencontre Golden Match et qui faisaient partie des 500 plus grandes fortunes d'Europe.
Madame le procureur, il vous faut un agent provocateur pour le pousser à la faute. Si vous servez d'appât à la cible, vous ne pouvez pas assumer les deux rôles.
Mmh. J'ai ma petite idée.
Le commandant Marquant. Dans mon service, on ne mélange pas le travail et la vie privée. C'est trop dangereux.
Mais ça tombe bien, on n'est plus ensemble depuis un an.
Raison de plus. C'est non. Cette mission n'est pas pour vous.
Trop tard. Je me suis inscrite sur le site de rencontre et je suis en lien avec notre suspect depuis 3 mois. Je vais donner rendez-vous la semaine prochaine à Cannes.
Allez, de retour avec Jean-Michel Tinivelli. On continue évidemment à 19h, c'est ce soir, on vous le disait, 21h10 sur TF1. Et puis donc, bah oui, on retrouve Simon Coleman vendredi à 21h10 pour 2 nouvelles enquêtes, puisque tu es revenu depuis vendredi dernier. Et alors, je crois que Tonton, c'est devenu un surnom qui te colle à la peau maintenant.
Oui, c'est vrai, ouais. Tonton Coleman, on appelle Tonton sur le plateau de Simon Coleman.
C'est ça qui est drôle.
On appelle Tonton partout. Mais ça me fait plaisir, je suis assez content. Ça me va bien, ce Tonton, là. Je suis très content. Et de retour, ouais, pour 6 épisodes, 6 inédits, avec beaucoup d'invités, beaucoup de nouvelles histoires.
Oui, on va voir que Simon, son père, a débarqué vendredi dans les deux premiers épisodes.
Il a débarqué la semaine dernière. J'étais là, pareil, j'ai pas envie de spoiler, mais c'est pas franchement une bonne surprise. C'est l'anniversaire de la petite, de Violette. C'est les 18 ans de la petite. Et franchement, quand tu le vois débarquer, on sent que...
Ouais, il y a quelque chose qui se passe.
Il y a un truc qui se passe, il va y avoir du rock, quoi. Voilà. Rock'n'roll, qui j'espère vous a plu.
J'ai l'impression que vous avez une tribu de guests pour cette nouvelle saison, Jean-Michel. Je sais pas si tu vas me confirmer ça, mais j'ai l'impression que ça se bouscule au portillon pour venir vous accompagner maintenant.
Bah, en tout cas, ils sont là, quoi. C'est super cool. Je trouve ça sympathique. Ça fait plaisir. Oui, il y a eu vraiment une, alors je sais pas si on dit une belle brochette, mais beaucoup de camarades que j'avais pas revus qui sont venus faire un petit tour. Grâce à mes producteurs, grâce à moi, grâce à la série, peut-être, t'as raison, on est content de venir dans un programme sympathique, hein. On y va pas reculons, et ils avaient l'air très heureux de venir. Donc, on a des jolis invités cette saison, effectivement, c'est super chouette.
Il y a Alex Wood qui va apparaître, Jean-Baptiste Monnier, Joey Esther, Fred Bianconi, Pascal Légitimus, enfin, vous êtes accompagnés, c'est un truc de dingue.
Ouais, c'est super. Comme je te disais, hyper content. Donc voilà, c'est avec de belles enquêtes bien ficelées aussi cette année. On est bien sur le polar. On a bien là aussi, je le disais dans la liste verte, mais on s'est bien amusé aussi parce que l'équipe commence à se là, on est rodé. C'est la 3e saison. On se connaît. On a lâché les chevaux hein, quand même. On est beaucoup plus. Alors il y a des moments effectivement. Il y a beaucoup d'émotions aussi avec le père, le retour avec les enfants. C'est un peu la recette de cette série. C'est une série. Familial et populaire, donc on rit, on pleure, mais je pense qu'on le réussit plutôt pas mal. Et puis c'est surtout, je le répète, c'est très généreux, ça se prend pas au sérieux. Je pense qu'il faut vraiment être d'une sincérité folle, quoi. Ça, je l'espère, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, quoi.
C'est ça qu'on ressent, parce qu'en fait, dans Simon Coleman, ce qui est bien, c'est que quand on le regarde, il y a de tout. Il y a de la comédie, il y a de la comédie familiale, il y a de la comédie policière, il y a des enquêtes. En fait, on retrouve tous les ingrédients qui font aujourd'hui le succès, hein, je crois, d'une série et qui cartonne en plus, donc c'est encore mieux.
Je veux dire, on est dans la comédie, on est dans le populaire, on est dans le polar. On essaye, en tout cas, on s'en sort plutôt pas mal. Et beaucoup de plaisir, une fois de plus, à retrouver les invités et les copains du commissariat et les petits, enfin, je dis les petits, enfin.
Ah oui, c'est incroyable.
Ils grandissent, hein.
Mais oui, bah, Roman et Lily, ouais, hein, franchement, et Noam, ouais, ils sont dingues.
Ouais, ça y est, bientôt, ils vont bientôt me dépasser, quoi. Mais c'est toujours un plaisir de retrouver tout le monde. Et l'équipe technique aussi, parce que c'est une espèce de rendez-vous aussi dans l'année, ils sont contents de venir. C'est un plateau chaleureux. Voilà. Ça se ressent, je pense, au niveau des images.
Il y a beaucoup de guests et beaucoup d'invités dans cette saison. On n'oublie pas évidemment les impondérables et puis le socle d'origine, Flavie Péan, bien sûr, est de retour à l'ICA del Sol. Tout le monde est de retour depuis vendredi, en tout cas, pour accompagner Simon dans ses enquêtes et dans sa vie privée.
Exactement, ils sont tous là. Les deux premiers, je pense, vous ont plu. Et la suite sera pareil, de haut vol, à mon avis. Voilà.
Bon, la saison 4 est en route ou pas, Jean-Michel ?
Ouais, je crois, oui. Si à moins d'une catastrophe... industrielle violente, ce que je ne souhaite pas. Je vous demande à tous d'être très positifs par rapport à ça, de croiser les doigts. On repart au mois de février pour une 4e saison. Ouais. Ouais. Bon. Normalement pour 6 nouveaux épisodes. Voilà.
On a déjà hâte, en tout cas. Et ben on retrouve Simon Coleman, bien sûr, vendredi à 21h10 sur France 2. C'est déjà en intégralité sur France.tv, évidemment, si vous ne pouvez pas résister à déjà découvrir la saison entière, à binge-watcher, comme on dit. Et puis, Jean-Michel, on te souhaite en tout cas un bon tournage, parce que tu es en tournage hein, cette semaine. Hein.
Ouais, je pars pour 4h52 pour TF1, voilà, je n'en dirai pas plus. Mais à suivre.
Bon, à suivre en tout cas. Merci beaucoup, Jean-Michel, d'avoir été avec nous.
Merci Alain, merci pour ta fidélité, merci à toutes et à tous, et j'espère que tout ça vous plaira. Vive la télé, voilà, j'ai envie de dire.
Exactement, allez, c'est la semaine Jean-Michel Tinivelli, ce soir à 19h, 21h10 sur TF1 et vendredi 21h10, Simon Coleman sur France 2. Merci à toi, à très vite.
Bye bye, à très vite, merci beaucoup.
Inédit sur France Télévisions.
Salut Inès.
Ah, salut vous deux, ça va?
Alors, qu'est-ce qu'on a?
Capitaine Baker, Capitaine Coleman.
C'était le plus talentueux de tous.
Eh ben ouais. Enfin, mais qu'est-ce que vous faites?
Je déclare officiellement qu'on a trouvé tous les deux l'arme du crime, ou?
Après, tonton, si vraiment t'as pas d'idée, tu sais qu'un téléphone, moi, ça ne va pas.
Pas rater l'anniversaire avec ma petite fille, hein?
Non, mais c'est juste que...
Que t'es fâché à mort avec lui depuis plus de 20 ans.
Ah, vas-y, vas-y.
Je suis le papa de Simon.
Ah!
Simon Coleman, nouvelles enquêtes, nouvelle saison inédite. Vendredi dès 6h sur France.tv et à 21h10 sur France 2.
Allez, c'est notre invité en cette rentrée de septembre et c'est une rentrée chargée également pour lui, Xavier Deluc. Un habitué de l'émission est avec nous. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est le rôle du procureur, hein. Bien sûr, Sébastien Perrault dans la série Demain nous appartient. Mais tu es aussi l'inoubliable Martin dans la série Section de recherche aussi pour le plus grand plaisir. Et ça tombe bien. Puisqu'on va continuer à te voir dans DNA cette saison. Et en plus, un nouvel épisode à la montagne, ce coup-ci de section de recherche. Le planning est bien rempli, tout va bien?
Oui, je travaille. On tourne, voilà.
Tu te plais toujours autant dans Demain nous appartient, là, maintenant? Comment ça se déroule? Parce que t'es arrivé dans la série, toi, un petit peu plus tard, hein, que pour le coup, Jennifer Lauret, dans le rôle de son papa. Comment s'est passée l'intégration, raconte-nous?
Comment ça s'est passé? Très bien. C'est au début un peu un nouvel exercice de travail, on va dire. Et puis au fur et à mesure, on finit par trouver le rôle, cerner le personnage, et puis l'équipe est très sympa, vraiment c'est très agréable, et une bonne entente, et puis Sébastien Perrault, je m'amuse bien avec le procureur.
Franchement, c'est un peu le procureur lover quand même, hein. Et Sébastien Perrault, on a l'impression que c'est un peu un éternel amoureux.
En tout cas, il s'amuse bien, le procureur, et il a sa vie à 7, il travaille, et entre travail et amour, effectivement, voilà.
Le rythme d'une quotidienne, Xavier, est-ce qu'on s'y fait assez vite finalement?
C'est un exercice au début, faut un peu comprendre. Et puis moi, je travaille tranquille. La production est super avec moi. Je fais pas non plus des journées immenses. Donc non, j'ai le temps d'avoir un confort de travail qui est bien.
Oui, parce que c'est vrai que Sébastien Perrault, on le voit de façon assez épisodique, ce qui permet aussi, toi, de faire plein de choses. T'as été à l'affiche toute la saison dernière de la pièce de théâtre aussi Secret de famille. Ça te laisse le temps aussi de tourner un peu section de recherche sur un unitaire ou deux événements par an. Donc ça laisse un petit peu de temps, finalement.
Oui, c'est la production de Demain nous appartient, qui est vraiment agréable avec moi, quoi, qui me laisse des plages de temps pour que je puisse aller faire d'autres activités d'acteur. Donc ça, c'est formidable, aller jouer d'autres personnages et puis de revenir encore plus content sur DNA.
Section de recherche. On va y revenir parce qu'il y a eu un épisode tourné à Montagne, après la Nouvelle-Calédonie, après la Réunion, après la Martinique. Ce coup-ci, vous allez nous emmener dans des magnifiques paysages. Les décors sont absolument superbes. Et là, à Montagne, ça va donner un autre charme aussi.
Oui, on a tourné à la Montagne récemment, du côté de Bonneval. C'était superbe. Il faisait très froid. On a fait deux beaux épisodes intenses, réalisés par Stéphane Capès et qui se sera diffusé, j'imagine, cet hiver. Et franchement, à chaque fois, on fait des épisodes exceptionnels. Après, effectivement, comme vous disiez, l'île de la Réunion, la Martinique, voilà.
On trouve toute la compagnie, Fabienne Cara, Franck Sémonin, évidemment, notre Lucas.
Oui, Félicité Chaton. Ah ouais, oui, bien sûr, toute l'équipe, c'est superbe.
C'est un miracle presque, quand on pense que la série avait été enterrée quand même par TF1, et puis que vous avez été 2-3 ans sans tourner, d'un seul coup on vous dit « allez, on y retourne un peu comme Alice Nevers » et ce retour inespéré. Finalement, c'est deux séries dont le public n'a jamais défailli pour les soutenir.
Oui, c'est ça, c'est grâce au soutien du public et un engouement des téléspectatrices et téléspectateurs qu'on demandait, la chaîne a senti qu'il y avait vraiment un désir, et donc on nous a proposé de refaire des rendez-vous exceptionnels, ce qui est intéressant pour la série maintenant. Parce que je ne ferai plus jamais, en tout cas pas dans section de recherche, 14 ou 8 épisodes à la suite.
Mais 14 épisodes, il y avait des saisons. Non mais ça n'arrêtait plus quoi.
Oui, c'était un gros succès, c'est sûr. Donc voilà, puis ça donne le plaisir de se retrouver tous et de faire des beaux rendez-vous encore plus soignés à l'image et en scénario. Donc c'est bien.
Bon, qu'est-ce que t'aimerais dans l'absolu, pour terminer, que tu voudrais faire évoluer ton personnage de Sébastien Perrault, si t'avais une suggestion, t'es un donné comme ça à la production, est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais qu'il te fasse jouer particulièrement, ou est-ce que tu voudrais qu'à un moment donné, Sébastien Perrault connaisse une situation particulière que t'aimerais jouer, que t'as peut-être jamais joué?
Non, je pense qu'au contraire, même là, la production, les auteurs ont répondu à non pas un besoin, mais à ce qu'ils voyaient à l'image, ils réagissent par rapport à ce qu'ils voient à l'image. Donc ils m'ont emmené vers un peu plus de comédie, de fantaisie, d'amour, comme vous disiez. Bon, je trouve ça plutôt bien, c'est-à-dire qu'il a un côté autoritaire et un peu patriarche parfois, et puis tout d'un coup il devient tout mignon, tout amoureux, perdu. Je trouve ça sympa de jouer les rapports amoureux à ces âges-là, parce qu'il y a un côté enfantin quelque part. Il retrouve une espèce d'approche de l'amour un peu naïve et toute fraîche et toute sensible. Ça me plaît. Alors un cocktail de tout ça, si on continue comme ça, ça m'intéresse.
Même la relation avec Martin, Constant, ce coup-ci, c'est bien détendu quand même entre eux, hein, entre les deux hommes. Hein.
Oui, ça se détend, ça se retend, ça se détend, oui, un peu. Oui, bah maintenant, c'est mon gendre hein, quand même. Puis les histoires avec Marianne, les téléspectatrices et les téléspectateurs aiment bien, aiment beaucoup le rapport avec Marianne. Bon,
on aime bien ce trio un peu qui se tourne autour. C'est assez drôle de voir aussi justement ce petit combat de coq là avec Christian Vadim que vous jouez tous les deux. C'est magnifique.
Ouais, Christian est adorable, franchement. Donc c'est des plaisirs de se retrouver comme ça, et puis d'avoir des scènes comme ça. Et puis quant à Jennifer Leroy, ma fille dans l'histoire, Raphaël, c'est un plaisir, c'est un délice. Et puis mes petites filles aussi que j'adore câliner de temps en temps. Ils m'écrivent des petites scènes sympas. Non, c'est assez proche de la vie et des rapports entre un patriarche et puis tous ces personnages.
Quelle belle famille Perrault, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, Xavier, d'avoir été avec nous. On te retrouve donc bientôt à la montagne dans un épisode, évidemment, de Section de Recherche pour notre plus grand plaisir. Et puis, on continue à te retrouver du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1 et sur TF1+. Merci beaucoup.
Eh bien, merci.
À bientôt.
À bientôt.
Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et notre invitée Camélia Jordana qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Camélia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, c'est un réel plaisir de t'avoir à nouveau dans notre émission. On t'a eu déjà quelques fois et quand je vois le parcours que tu fais depuis maintenant plus de 15 ans, c'est totalement hallucinant tout ce qui t'arrive, le cinéma, la musique, toute souris.
j'ai beaucoup de chance, j'ai la chance de pouvoir pousser des portes et puis de me retrouver avec des partenaires rêvés pour pouvoir avancer sur mon chemin, sur mon humble chemin.
Et le cinéma qui te fait des yeux doux, Reine Mère, qui est disponible en DVD et VOD d'ailleurs en ce moment, c'est ton dernier film sorti. Quel regard tu portes justement aussi sur ces personnages que tu joues aussi différents les uns que les autres?
Je me sens très chanceuse et je me sens responsable envers les femmes que j'incarne. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que quand je choisis une histoire, il y a un vrai engagement. Il y a un pacte à la fois entre la personne qui réalise et moi, évidemment, mais aussi entre le personnage et moi. Et du coup, je me sens vraiment responsable face aux femmes que je deviens pour les films. Et Reine Mère, ça fait partie des personnages dont il me reste vraiment un gros bout. Je ne l'ai pas complètement déposé, cette femme-là, Amel.
Justement, ceux qui l'ont pas vu, puisqu'il vit sa deuxième vie maintenant en DVD, VOD, qu'est-ce que tu as envie de dire aux auditeurs là, pour qu'ils aillent se précipiter pour le voir? Histoire en quelques mots.
J'ai envie à l'histoire. Alors l'histoire, Amel est une mère de famille, elle est en couple avec Amor, interprétée divinement par Sofiane Zermani, connue aussi sous le nom de Fianso, et qui est un acteur magnifique, et avec lequel du coup elle a deux filles, dont l'aînée, Mouna, est à l'école du coin... à Vincennes, et c'est une école catho dans laquelle un jour on lui donne un cours d'histoire sur notamment Charles Martel, et de là il se passe un truc assez fou qui est que Charles Martel sort de la diapo et devient son ami, ennemi imaginaire, et de là cette mère absolument fantasque et singulière et haute en couleur va devoir un petit peu adapter son mode de vie. Et j'adore ce film, et ce couple de parents d'immigrés dans les années 90 amoureux et parents heureux, voilà, je ne l'ai jamais vu représenté au cinéma comme il l'est là, et voilà, je suis vraiment très très fière de cet objet, et voilà, je vous invite.
C'est vraiment comme un conte.
Ouais, c'est vraiment comme un conte, exactement. J'aime particulièrement ce film. Ouais.
Et en tout cas, vous pouvez aller le voir, en tout cas DVD, VOD. On va parler un peu musique, évidemment. Winrack est déjà disponible. C'est le signe annonciateur du prochain album qu'on a déjà hâte de découvrir. C'est vrai.
Bah, figurez-vous que moi aussi j'ai hâte de le découvrir, cet album. J'ai encore du boulot. Je suis pas loin. Franchement, je suis sur la bonne voie, j'ai l'impression. Mais Winrack, ouais, qui est une chanson dans laquelle, pour laquelle, dans le clip, on retrouve mon camarade Sofiane Zermani, qui m'a fait l'honneur de me faire confiance et de se prêter au jeu d'acteur pour ce clip que j'ai réalisé et dans lequel je me suis tellement amusée à danser. On est parti dans une direction artistique très singulière et en même temps de laquelle je me sens très proche et qui traduit assez bien l'énergie de la musique, je trouve. Et oui, en effet, j'espère pouvoir, je vais pouvoir travailler assez vite pour pouvoir sortir de la musique bientôt, qui sera elle aussi extrait du prochain album.
Alors évidemment, ce prochain album, est-ce qu'il va rester un peu dans la lignée ou est-ce qu'il y a quelques petits changements ou on va retrouver la Camélia Jordana qu'on aime ?
Ah bah je sais pas laquelle vous aimez parce que je crois qu'il y en a un petit paquet en plus, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sera celle qui est la musique qu'on trouve complètement dans Windrack, c'est-à-dire de la musique pop très inspirée de la musique arabo-andalouse, de la musique traditionnelle algérienne, inspirée et influencée par la Rosalía et en même temps qui est la suite logique et de Facile et de mon troisième album Lost. Voilà, c'est un mélange un peu de tout ça, je crois.
Un melting pot.
Un beau melting pot, ouais.
Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la petite fille que tu étais peut-être à 5 ans, si tu devais la rencontrer ?
À 5 ans, je lui dirais courage, accroche-toi, ça va bien se passer.
C'est pas mal.
Ouais, ouais, je dirais ça.
On te souhaite plein de belles choses, en tout cas, pour l'avenir. On va s'écouter, Windrack ?
Avec plaisir, merci beaucoup.
Bah écoute, on va s'écouter maintenant, Windrack. C'est le premier extrait du nouvel album de Camélia Jordana, à ne pas rater, évidemment, dans les bacs. Et puis Renmer, c'est en DVD et VOD avec Sofiane Zermani également, et qui tu partages l'affiche. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Je me parle, vois comme je me démène. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Jour après jour, je te cherche, mi amor. Pero yo no tengo el espacio en mi cuerpo por este dolor. عندي حب كبير بس هتروح بعيد عليا. خلي في قلبي كيا وين قلبك مبريا. يا حري روحاني غيابك مهناني. يا عمري وين راك وين راك وين راك. Toi seul pour me consoler, envoler ton rire ta nia. Je sais même pas comment t'as fait pour m'ensorceler. Je suis fini à Hayalia. Toi aussi t'es piqué, n'essaie pas de nier. Maintenant aucun ne font que saigner. Ya عمري نحبك ولي comme je me démène. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Jour après jour, je te cherche, mi amor. Pero yo no tengo el espacio en mi cuerpo por este dolor. عندي حب كبير بس هتروح بعيد عليا. خليت في قلبي كيا وين قلبك مبريا. يا حري روحاني غيابك مهناني. يا عمري وين راك وين راك وين راك.
Chut, on écoute la télé spécial festival.
Allez, on ouvre notre page maintenant, Festival de la fiction télé de La Rochelle, qui s'est refermé donc samedi soir en délivrant son palmarès. On va commencer tout de suite par vous dévoiler les prix attribués par les téléspectateurs avec Télé Loisirs. Le prix du meilleur comédien Télé Loisirs a été attribué à Raphaël Langlais pour son rôle dans la série Après la nuit pour France Télévisions. Le prix de la meilleure comédienne Télé Loisirs est pour Nolwenn Leroy pour la série Brocéliande sur TF1. Et puis pour le prix de la meilleure fiction unitaire Télé Loisirs, c'est Signalement de Éric Métayer qui l'emporte avec notamment Odile Wilmain. Le prix de la presse étrangère Unifrance a été attribué à l'unitaire à Notre Père. Et le prix des collégiens de la Charente-Maritime remis par le jury jeune a été attribué à Battle La Réunion pour Arte, 8 fois 13 minutes. La meilleure série plus de 20 minutes francophone internationale, c'est Quiproquo qui l'emporte pour la RTBF. C'est un 8 fois 52 minutes. pour la meilleure série moins de 20 minutes francophone internationale. C'est Fleur de Peau, une série canadienne. Et puis pour la meilleure série moins de 20 minutes, c'est donc Fleur Bleue, la série d'Enya Barou et Martin Darandou qui l'emporte. Enya Barou était à notre micro.
Inattendu, on s'attendait pas du tout à gagner un prix ce soir. On était partis en se disant voilà, on est déjà tellement content d'être là, on est content d'être sélectionné. Et alors quand on a entendu Fleur Bleue, moi j'ai bafouillé, j'ai pas su quoi dire. On est trop fiers, trop contents. C'est un programme très court. Il y a peu de festivals qui récompensent des formats aussi courts, donc on est trop contents. C'est une récompense de ouf. Voilà, merci.
Est-ce que tu penses que ça peut être un tremplin vers justement Fleur Bleue prenne un envol encore différent aujourd'hui, un prix comme ça?
Bah oui, je pense que voilà, on a envie de continuer à raconter Fleur Bleue, donc on sait pas encore dans quelle forme, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous motive pour la suite et on espère que ça motivera les partenaires financiers qui travaillent avec nous, quoi.
Faites connaissance avec Fleur, en tout cas, vous allez voir, vous n'allez pas être déçu du voyage. MyCanal et YouTube, vous tapez Fleur Bleue avec. Évidemment, Enya Barou qui est avec nous. Et puis, découvrez aussi son film. On ira en DVD, VOD. Merci beaucoup, Enya.
Merci à toi. Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Allez, on continue à dérouler ce palmarès avec la meilleure série 26 minutes qui a été attribuée à la série Extra Lucide de Bruno Merle. Pour la meilleure série 52 minutes suspense, c'est Phoenix qui l'emporte, qui débarquera très prochainement le 2 octobre sur France.tv et bientôt sur France 2. L'un des créateurs de la série, Mathieu Bernard, était à notre micro.
On est tellement heureux. Ça fait 6 ans qu'on porte ce projet sur un sujet essentiel et qu'on a voulu vraiment créatif, construit comme une vraie série qui a voilà, une vraie ambition narrative au-delà même du sujet. On voulait que ça soit vraiment un magnifique projet et Franck Brett l'a mis merveilleusement en scène.
C'est vrai, la série sera visible dès le 2 octobre sur France.tv. Elle sera diffusée également très prochainement en soirée sur France 2 pour un véritable marathon Phoenix. On vous invite à le découvrir et vous serez là le 6 octobre pour en parler dans notre émission. Merci beaucoup Mathieu.
Merci beaucoup et regardez nombreux, les jeunes comme les moins jeunes, et parlez-en.
Dès le 2 octobre sur France.tv. Merci Mathieu, à bientôt.
Merci.
Et on continue avec la meilleure série 52 minutes comédie dramatique qui a été attribuée à la série Le Diplôme de Fanny Riedberger. Pour mention spéciale, c'est pour Les Saisons dans la catégorie série 52 drama de Nicolas Maury. Et puis le prix de la meilleure série 52 minutes drama a été justement attribué à l'affaire Laura Stern. Le réalisateur Hakim Isker est à notre micro.
C'est compliqué, c'est beaucoup d'émotions parce que c'est impossible de penser à une satisfaction classique. Je ne pense qu'à ces femmes qui m'ont offert leur histoire avec aucune hésitation et qui m'ont montré à quel point c'était sans doute l'histoire un petit peu de chaque femme sur cette terre, même si toutes proportions gardées, mais je ne pense qu'à elles ce soir. Voilà.
Tu veux dire que Laura est un peu universelle aujourd'hui, elle est un peu dans toutes les femmes?
Laura, c'est nous. Laura, c'est la personne qui incarne l'insupportable, qui ne supporte pas ce qui se passe autour de nous. Et comment dire, c'est moi aussi. C'est-à-dire que posons-nous les bonnes questions, nous les hommes, pour changer nos rapports déjà au quotidien, dans nos maisons, avec nos femmes, avec nos sœurs, avec nos mères. Et sans doute que le monde se portera meilleur. C'est facile de dire ça, mais quand tu as baigné pendant des mois avec des femmes qui te racontent l'horreur, c'est compliqué de ne pas finir par dire ça.
En tout cas, tu seras avec nous, hein, évidemment, pour en parler de l'affaire Laura Stern. Il y aura Valérie Bonneton, tout le monde viendra et on sera là pour soutenir évidemment la diffusion bientôt sur France 2.
Merci, merci.
À bientôt,
Hakim. On sera là avec grand plaisir.
À bientôt, Hakim.
À bientôt.
Et on continue avec les prix des jeunes espoirs Adami pour le jeune espoir masculin. Il a été attribué à Simon Rodzinek pour la mini-série Désenchanté. Et puis pour le meilleur espoir féminin, c'est Léonie Dahan-Lamort pour la série Pécheresse qui l'emporte. La meilleure interprétation masculine a été attribuée à Jean Le Pelletier pour l'unitaire Un autre père. Et pour la meilleure interprétation féminine, c'est Clémentine Sélarié qui l'emporte pour la série Le Diplôme. Clémentine Sélarié réagit à notre micro.
Je partage ce prix avec toutes les femmes qui sont concernées par... Salut Valérie. Valérie Bonneton qui a aussi été dans un film d'Hakim Isker qui parle de ça. Bah, qui sont victimes des violences conjugales d'abord parce que un rôle... On est récompensé souvent pour la force d'un rôle. Et la force aujourd'hui et la gravité de la situation de ces femmes qui sont sous emprise ou est très importante. Donc cette série est très belle parce que elle donne là-dessus un vrai regard. Charles Berling est pour moi un mari C'est un acteur exceptionnel qui donne cette chose du mari, de l'homme qui peut vriller d'un coup et devenir un monstre. Et donc, moi, je partage ça avec plein de femmes qui vivent tout ça. Et puis, je partage ça avec mes camarades de la série Le Diplôme, qui parlent d'une chose très importante aujourd'hui, c'est des êtres seuls, des solitudes, qui se retrouvent dans un cadre social, comme un lycée, par exemple, même grand, vieux, qu'est-ce qu'on s'en fout, et qui tissent un lien. Et ce lien, c'est tout con, mais par exemple, quand t'es une femme battue et que tu vas dans un lycée ou dans un endroit... tu sais, public, enfin, tu vois ce que je veux dire, social, et ben, tu n'as plus peur parce que tu es dans la société, tu es dans un cadre, et que Fanny Hiret-Berger, qui était la productrice des randonneuses, est quelqu'un de très exigeant, et voilà, c'est très paradoxal de recevoir un prix là-dessus, tu comprends, parce que moi, je le partage avec toutes les femmes qui vivent des horreurs, et pour que la lumière soit faite sur elles, et qu'on puisse... On puisse parler plus librement, sans honte, quand on s'est fait maltraiter physiquement par un homme et qu'on nous croit surtout et qu'on nous respecte. Voilà. Voilà, donc c'est un rôle très fort parce qu'il représente quelque chose de très grave dans la société. Voilà.
Et Le Diplôme, ça sera bientôt sur TF1. On en reparlera bien sûr. On en parlera avec toi. Merci à toi, Clémentine.
Merci à toi.
Et on remonte avec le prix de la meilleure réalisation qui a été attribué à Bruno Merle pour la série Extra Lucide avec Sabrina Ouazani et Camille Rutherford. Bruno Merle, le réalisateur, est donc à notre micro pour réagir.
Je crois que c'est première fois que je reçois un prix de réalisateur. J'ai reçu des prix pour mes séries ou des prix du public, mais réalisateur, c'est la première fois. Non, mais c'est que du bonheur. Et puis, on avait pris plein de risques sur cette série. Donc, le risque, ça paye.
Et comme quoi, des actrices incroyables.
Incroyables, évidemment. Pas de réalisateur sans les acteurs, sans l'équipe technique incroyable. Camille, Sabrina, mais pas que toutes les deux. Il y a une pléiade d'acteurs dans la série. Il y a 50 personnages, ils sont tous dingues. Ça joue de ouf. Et il faut le voir, ne serait-ce que pour prendre du plaisir d'acteur.
À qui tu le dédies ce prix aujourd'hui ?
Oh là là, je le dédie à David Lynch.
À toutes les équipes.
Oui, non, mais tous les gens qui font avec moi, mais j'espère qu'ils le savent. On se prend tous beaucoup dans les bras. Tout ça, c'était un projet hyper à petite échelle, donc hyper humain. On sait tous qu'on sait, mais je leur dois tout ça. Ils le savent, j'espère. J'espère qu'ils le savent.
Merci Bruno. Tu viendras en tout cas nous parler, évidemment, de la série Extra Lucide bientôt. Dans Chute en écoute de la télé avec tes merveilleuses comédiennes Sabrina Ouazani et Camille Rutherford. Okay. À bientôt.
Le rendez-vous est pris.
Et on continue avec le prix Stéphane Strano du meilleur scénario qui a été attribué à Marie-Sophie Chambon, Anaïs Carpita, Judith Havas et Camille Pierrard pour la série Bistronomia. Nous avons eu la chance de rencontrer Marie-Sophie Chambon qui réagit à notre micro et qui est pas peu fière.
On est trop contents. Le prix du scénario quand on est scénariste, c'est le plus beau. Donc voilà, je suis trop contente. Et puis c'était l'occasion aussi de parler des femmes qu'on voit pas assez, des femmes dans la cuisine qui sont dans les cuisines de maison mais pas malheureusement pas dans les vraies cuisines et qui pas dans les guides et les prix, tout ça. Donc voilà, la série elle parle aussi de ça, donc voilà, trop contente. Je voulais dire merci aussi à mes co-scénaristes, donc Anaïs Carpita, Judith Havas et Camille Pierrard qui ont fait partie de l'équipe pendant 5 ans, donc voilà, bravo à elles aussi, c'est leur prix.
Louise Labeck est une des interprètes justement de la série Réaction. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un prix comme ça collégial?
Moi je suis hyper contente, je pense que sans Marie-Sophie, sans Anaïs, sans Camille, sans Judith, il n'y aurait pas eu de série dans tous les cas. C'est encore plus important que la colonne vertébrale de la série. Elles ont apporté toute la délicatesse, toute la sensibilité qui était nécessaire à mon avis au personnage. Et voilà, c'était un scénario magnifique et je suis trop contente pour elle et pour la série. Voilà.
Bistronomia débarque le 25 septembre sur France.tv. Le 29 septembre, vous serez nos invités pour en parler. Évidemment, un rendez-vous à ne pas manquer. Vous serez toutes là avec nous pour en faire la promo. Merci en tout cas et bravo.
Bravo, merci aux actrices parce que sans elles, le scénario n'existe pas. Donc voilà, immense bravo.
Il prend vie. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et on terminera avec le prix de meilleure musique qui a été attribué à Cyril Aufort pour l'unitaire Monsieur. Et le prix du meilleur unitaire a été attribué donc à un autre père de Pierre Linhart avec Jean Lepelletier qui a raflé pas mal de prix pendant cette soirée. Un grand remerciement évidemment à toutes les équipes du festival. Merci à Sophie Réville, merci à Pauline Herthaud pour leur confiance. Merci à tous les attachés de presse des chaînes de télé qui nous ont aidés, qui nous ont apporté leurs équipes équipe sur un plateau que l'on va pouvoir vous distiller tout au long de cette saison en suivant bien sûr leur diffusion à la télévision. Merci à tous les artistes aussi qui sont venus à notre micro, ils ont été très nombreux. Et puis un grand merci à nos partenaires également qui nous ont aidés. Merci notamment à l'Appart City de La Rochelle et à Marion en particulier qu'on embrasse. Merci également à notre deuxième Marion, celle du Brada, la nouvelle brasserie des Dames. On a pu réaliser nos deux émissions en direct et en public depuis le Festival de la Fiction Télé. Merci également à tous nos attachés de presse du Festival. Merci à l'équipe de Jérémy Marc, Magali Bonavia, Amélie Saillé et Elias Ban qui nous ont également aidés tout au long de cette semaine de folie. Et on peut dire que déjà, ça y est, la prochaine édition du Festival de la Fiction Télé est sur les rangs. Elle se déroulera du 15 au 20 septembre 2026.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film Muganga, celui qui soigne, qui sortira ce mercredi dans les salles. Un film de Marie-Hélène Roux, qui est justement notre invitée. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Elle est accompagnée d'une habituée de l'émission qu'on adore, Manon Brèche. Vous l'avez découvert peut-être dans Plus belle la vie il y a maintenant quelques années. On se connaît depuis une dizaine d'années. Et je suis très heureux de te voir, surtout pour un projet comme ça, parce que je sais le cœur que tu mets à l'ouvrage pour porter des rôles importants. Merci d'être là, Manon.
Ben, je te remercie pour cette introduction. On ne peut pas faire mieux. Merci beaucoup.
Et Déborah Lecouménard qui est avec nous également. Bonjour, Déborah.
Bonjour.
Aussi souvent des rôles engagés aussi, Déborah on te connaît aussi pour ça. Un combat important, celui de Denis, un médecin congolais et futur prix Nobel de la paix qui soigne des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo, dans l'est du pays. Et sa rencontre avec Guy Cadière, chirurgien belge, eh bien va l'aider tout simplement dans son engagement. Et si dans la vraie vie, ce médecin Guy Cadière a un fils, Manon, ben là c'est une fille dans la fiction, c'est une petite liberté dans le scénario que tu incarnes. Justement, Manon.
Oui, totalement. Ben, effectivement, c'est une fiction qui est inspirée de faits réels. Donc, Marie-Hélène a plein d'endroits s'est arrangée avec la vérité pour réussir à créer un moment en particulier dans la vie de Guy Bernard Cadière et de Denis Mukwege. Et puis, par contre, effectivement, ce qui est vrai, c'est que dans la famille Cadière, il y a un engagement central, je pense, au sein de leur famille, au sein de leur éducation. Guy Bernard Cadière est un homme qui a toujours été engagé depuis sa fac, depuis la fac. C'est là où il avait rencontré, je me permets, mais la mère de ses enfants, qui est aussi une femme engagée, avec qui il a aussi exercé, qui était anesthésiste, qui partait avec lui, avec leur fils comme chirurgien, exercé, et notamment en RDC.
Marie-Hélène, j'ai vu le film il y a quelques semaines, qui était projeté au Festival d'Angoulême. J'ai été complètement saisi. Le film est brut de décoffrage par moment, mais il est nécessaire de aussi montrer aux spectateurs la réalité des choses. 1100 femmes violées chaque jour en République démocratique du Congo. Comment c'est possible ça en 2025?
Ben, vous me le demandez, mais la première, je pense que tout être humain doit être choqué par ce nombre, et cela fait 30 ans que ça perdure. Il faut savoir que l'histoire du film se situe en 2011, donc là ce sont les propos du docteur à l'époque. Mais oui, c'est une situation qui est catastrophique, et malheureusement on ne met pas assez la lumière et on ne parle pas de cette tragédie qui se passe, parce qu'il faut savoir que depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est le plus grand, on peut parler de génocide, c'est le conflit le plus meurtrier, entre 7 et 10 millions de morts et des populations déplacées, et on n'en parle pas. Après, bien sûr qu'il y a ça, c'est le contexte, et nous, l'histoire, le film est une fiction, et ce qui m'a bouleversée quand j'ai connu, et je me suis rendu compte de mon ignorance, c'était en 2014, ce qui m'a touchée, c'est l'élan d'espoir aussi, c'est qu'il y a des hommes qui, dans leur différence, le docteur Mukwege, le docteur Cadière, œuvre au-delà de leur, comme je dis, au-delà de leur différence, ils font tous une différence et ils sont porteurs d'un espoir. Ils nous montrent le chemin, comment on peut changer les choses, comment on peut amener de la guérison. Et pour moi, quand vous dites oui, c'est coup de poing, c'est un film choc, on peut pas aborder un tel sujet sans avoir un acte de on parle de la guérison, il faut montrer ce qui a besoin d'être guéri, en l'occurrence les violences sexuelles et ce chaos qui perdure. Mais dans ce chaos, il y a un havre de paix qu'a créé le docteur Mukwege et ses femmes, parce que la guérison est collective, et c'est important de montrer qu'il y a l'espoir, qu'il y a la vie, qu'il y a cette fraternité. Il nous montre l'exemple.
Déborah, c'est un peu la voix des victimes, du coup, dans le film, à travers ton rôle.
Oui, c'est à la fois la voix, parce que c'était important pour Marie-Hélène que ce soit avant tout centré sur la voix des survivantes, celles qui traversent justement ces étapes de guérison, et guérison physique et psychologique et émotionnelle. Donc à travers Boussara, c'est non seulement on suit sa trajectoire dans la guérison, mais on suit aussi un moment butoir, en fait. C'est le moment où elle est en fait confrontée à un choix qu'elle veut faire et qui est différent en fait de ce que le docteur exerce, de ce que le docteur voudrait. Donc ça permet de, c'est la première opposition auquel le docteur se confronte, et on découvre un imparfait chez lui qui le rend encore plus humain et qui le rend encore plus universel. Donc Boussara, en fait, c'est le choix de décider d'avoir le choix.
Bien dit. Isaac de Bancolet, il est génial, franchement. Et puis quel plaisir de le revoir aussi sur nos écrans.
Oui, non, il a cette noblesse, il a cette stature, il a
un charisme de dingue.
Il incarne, parce que quand moi j'ai rencontré le docteur Mukwege, il y a un charisme, il y a une noblesse, il y a une élégance, il y a pas de mots. Et je sais qu'Isaac s'est investi complètement, a beaucoup travaillé, a rencontré le docteur, a été vraiment, s'est intéressé. C'est un bonheur de le voir interpréter ce rôle. Et Vincent Macaigne, lui, propose cette contrebalance un peu de la fantaisie, l'esprit libre,
l'avancée aussi médicale, en décidant de les soigner différemment et en apportant un plus grand confort, peut-être de soins.
Et puis il faut savoir dans cet endroit que moi c'est ce qui m'a frappé quand j'y suis allée, c'est important de le mettre dans le film, ils ont 100% de réussite sur le plan chirurgical. Donc il y a cette reconstruction, et ça c'est important, on emmène des solutions, ils emmènent. Pas moi je suis là pour pointer, mettre la lumière, un coup de projecteur sur ce qui se passe. Mais oui, cette technique permet de faire des miracles, en fait.
Manon, on ressort pas indemne. d'un tournage comme ça, c'est pas possible.
Non, effectivement. Artistiquement, déjà, on a l'impression d'avoir enfin servi à quelque chose de plus grand que nous, de pas seulement avoir contenté ses volontés de s'exprimer, d'exister en tant que comédienne. On a l'impression du coup que notre outil principal, notre corps, notre voix, notre regard a enfin servi quelque chose de plus grand que nous. Voilà, donc déjà, y a ça artistiquement, humainement, il y a aussi juste une espèce de prise de conscience, comme on le disait, sur ce qui se passe dans cette région du monde. Encore une fois, le film est inspiré d'une histoire qui dure depuis 30 ans maintenant, et ce qui m'a permis aussi de me pencher sur cette région du monde. Et puis, il y a aussi une grosse sororité qui est apparu, que ce soit avant, je pense, en préparation de ce tournage. Je pense au binôme que Marie-Hélène fait avec Cynthia Pinet, et qui est juste admirable. La productrice, j'ai adoré en fait voir leurs convictions, voir à quel point corps, littéralement, et âme, elles se sont dédiées à ce projet, à ce moment-là de leur vie. Et puis après, il y a toute la sororité en tant que comédienne qui s'est mise en place déjà sur le tournage. Il y avait vraiment des moments de partage, que ce soit en collectif ou que ce soit plus petit, mais des moments qui étaient précieux. Et puis en fait, on ressort pas d'un tournage comme ça, et on le voit aussi pour les spectateurs qui ressortent pas de la salle de cinéma de la même manière dont ils y sont entrés. Exactement, qu'ils y sont entrés. On voit vraiment un espèce de bouleversement, et ce film est là pour ça, donc c'est un plaisir.
Quand ton personnage a besoin de prendre l'air, a besoin de qu'il craque par moment, tu joues encore là ou c'est difficile?
C'est difficile à plein de moments. C'est vrai que je l'ai dit, y a beaucoup de scènes auxquelles moi j'ai assisté qui ont fait qu'on est obligé de lâcher prise, et en fait on est surpris aussi par l'émotion que les autres nous envoient, parce que c'est un film où en fait, même si des choses sont écrites, on ressent beaucoup d'autres vagues d'émotions en les jouant. Et puis après, quand moi mon personnage souffle, j'ai aussi l'impression que c'est souvent le moment où le public a envie de souffler, où le spectateur a envie de souffler. J'ai l'impression que la fragilité que Maya a à plein de moments de sa découverte de Panzi, de la situation de ces femmes, c'est un petit peu aussi au même rythme que la découverte du spectateur. Et voilà, c'est une respiration pour tout le monde, je pense.
On va écouter avant d'annonce Muganga, celui qui soigne. C'est donc mercredi au cinéma. On revient juste après. Marie-Hélène, vous allez nous dire la signification également du mot Muganga dans un instant.
En 12 ans, l'hôpital de Panzi que je dirige a pris en charge plus de 30 000 femmes. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants.
Ce que vous avez dit, ça m'a bouleversé.
Je viens.
Je comprends pas, vous venez où ?
À Panzi, 15 jours. Je viens.
Le docteur Kadir est venu de Belgique pour vous soigner.
Toutes ces femmes attendent pour être opérées ?
Certaines n'ont nulle part où aller. Elles sont considérées comme impures.
Voilà, Muganga, celui qui soigne, ça sort mercredi au cinéma. Marie-Hélène Roux, réalisatrice du film, j'imagine que la signification du mot Muganga, vous allez pouvoir nous l'expliquer, du coup, aujourd'hui.
En Swahili, Muganga, ça veut dire celle ou celui qui soigne.
Bon, en l'occurrence, sous-titre.
Voilà, donc c'était important parce que aussi bien que ce docteur, ces docteurs et les femmes, parce que le soin est collectif, et j'ose espérer qu'avec ce film, l'art permet aussi de soigner, et pour soigner, il faut révéler ce qui fait mal, mettre la lumière sur quelque chose qui est plus grand que nous. Là, dans le soin, et notamment en parlant du soin, vous avez dû remarquer qu'on a nos petits pansements. Et en fait, c'est la symbolique, c'est que pour, vous savez, il y a beaucoup de films qui sortent chaque semaine, une vingtaine, et pour qu'on existe, et avec ma productrice, ça fait 10 ans qu'on se bat pour donner vie à ce film. Maintenant, on en est très fiers qu'il sorte. On a des petits pansements avec celui qui soigne parce que c'est une symbolique, et si tout le monde peut partager des photos sur les réseaux sociaux et parler du film et parler de la cause qui est derrière le film, Merci à vous, à tous ceux qui nous écoutez.
J'espère que vous allez me le mettre juste à la fin de cette interview. On filmera le moment, justement. On va vous mettre ça sur les réseaux sociaux. Déborah, la scène la plus difficile peut-être pour toi?
Tu sais quoi, ça semble prétentieux, mais en fait, il n'y avait pas de scène... Enfin, au niveau émotionnel, le personnage, pour Boussara la scène la plus dure est sa première, mais au niveau, putain, ça semble hyper prétentieux, mais c'est vrai que j'étais chargée de nos discussions, de la documentation qu'elle m'avait demandé de faire.
Il y avait une préparation au cordeau.
Préparation, donc on va dire que cette scène, elle est, je me sens hyper prétentieuse de dire ça, hein. Mais c'est vrai qu'elle n'était pas difficile d'exécution pour moi. Mais
elle était bien préparée.
Parce qu'elle a été bien préparée, parce qu'elle a été bien encadrée et parce que j'ai confiance en Marie-Hélène. Et c'est ce que je disais, c'est que ce genre de scène, c'est très solitaire entre toi et le réalisateur. C'est que le réalisateur est au bout du couloir et en fait, il faut juste suivre sa voix et y aller. Donc, il faut faire preuve d'une grande confiance. Et Marie-Hélène m'a vraiment mise en confiance parce que c'est une mise à nu. J'étais couverte, mais c'est quand même une scène très, très intime parce que j'avais grande confiance en elle, que j'ai pu... j'étais prête dû à notre travail aussi ensemble. Je ne l'ai pas préparée toute seule. Donc, c'est ayez de bons directeurs d'acteurs et de bons réals, exactement.
Mais il faut rajouter une petite chose, c'est quand on embarque sur un film comme celui-ci, il y a une responsabilité, il y a quelque chose qui vient du domaine du sacré, parce qu'on touche quelque chose qui est plus grand que nous. Et je pense que toutes les comédiennes, tous les comédiens, même tous les chefs de poste, on était imprégnés d'une gravité qui a fait qu'on était tous connectés à un niveau différent.
Vous étiez au service de la cause.
Exactement.
Cette cause, on peut parler un peu de l'après-tournage aujourd'hui. Que deviennent Denis et Bernard Guy aujourd'hui? Parce qu'ils ont passé des années traqués. Ils pouvaient même pas sortir de l'hôpital. Ils étaient vraiment comme en prison dans cet hôpital alors qu'ils étaient tout simplement en train de sauver des vies. C'est totalement dingue ça.
C'est notamment le docteur Mukwege qui vit dans l'enceinte de son hôpital entouré de barbelés. Donc lui, il vit constamment sous protection, il est menacé et il faut savoir qu'il en parlera, il faudra lui poser les questions à lui parce qu'il est bien plus, il maîtrise son sujet bien plus que moi. Et lui, aujourd'hui, il parcourt le monde, il est exilé, mais pour donner la parole sur la gravité de la situation, bon, c'est ce qu'il fait depuis 30 ans, mais aujourd'hui, à plus forte raison, parce qu'il y a une escalade dans la région. Ouais.
Quelles sont les prétentions de ce film? Est-ce que l'idée, c'est vraiment de faire connaître au plus grand nombre, justement, cette histoire, ce qui se passe là-bas? Comment le commun des mortels, nous, les auditeurs qui nous écoutent, pouvons aider ou pas? Est-ce qu'il y a des associations qui leur viennent en aide? Des associations françaises, par exemple, qu'on peut venir en aide?
Je pense que là, il y a tellement d'associations, mais il faut en mentionner une. C'est celle du docteur Mukwege, c'est la Panzi Foundation, la fondation Panzi. C'est très bien fait. Le docteur Mukwege a vraiment développé un centre, ce qu'il appelle holistique. Et là, tout le monde peut aller sur le site internet, se renseigner, et on peut tout à chacun faire une différence. Et c'est le sujet du film. C'est qu'on peut à notre niveau tout changer et amener une lumière, que les gens, comment on peut changer les choses, que les gens aillent au cinéma et par la suite, une fois qu'ils voient le film, déjà on se rend compte d'une situation, et de deux, d'aller sur les réseaux sociaux. Une fois qu'on sait, on peut plus fermer les yeux et d'arrêter de fermer les yeux et de ne pas être dans l'indifférence.
Il est nécessaire ce film Muganga, ça sort donc mercredi au cinéma, Celui qui soigne, Isaac de Bancolé, Vincent Macaigne, Manon Brèche bien sûr, Déborah Lucumena aussi. Alors, c'est le petit pansement.
Voilà, c'est ce qui permet de nous lier toutes et tous à cette cause et d'amener par ce petit ruban le soin, et l'art permet de se soigner et de véhiculer le changement, je l'espère, grâce à ce petit ruban, à ce petit pansement.
Normalement, il va coller. Tiens, je te laisse faire, Marie-Hélène.
Il va coller. Merci beaucoup.
Je suis Badjé maintenant. Muganga, c'est le 24 septembre au cinéma. Le film à ne pas manquer de Marie-Hélène Roux. Merci Manon, merci Déborah. Merci Marie-Hélène d'avoir été avec nous. Et puis on vous souhaite tout plein de bonnes choses, en tout cas pour la sortie de ce film. Merci à toutes les trois.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en fait?
C'est la troisième fois que je perds cette femme.
On va l'opérer combien de fois, nous? À quoi ça sert?
Ça suffit pas de faire le bien à Denis. Faut le faire savoir.
Toutes ces atrocités se déroulent autour de nous. Tout ce chaos est extrêmement lucratif. Le viol est devenu une arme à bas coût. Le corps de la femme est un champ de bataille. Toujours répondre à la haine par l'amour.
lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, spécial Moi qui t'aimais, le biopic consacré à Simone Signoret et Yves Montand. À cette occasion, Diane Curis, la réalisatrice, et Roche Dizem seront nos invités exceptionnels. Et puis on parlera également de la série Enquête en famille qui débarque sur TF1 avec notre ami Bernard Lecoq qui sera avec nous.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.